9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. On va commencer par la COP26. 197 pays sont attendus à Glasgow la semaine prochaine pour la 26e conférence sur le climat. Sandrine Maty, économiste de l'environnement, est ma première invitée ce matin. Je recevrai ensuite l'écrivain Patrick Besson qui publie un petit éloge amoureux des librairies et la réalisatrice Catherine Corsini et la comédienne Valeria Bruni-Tedeschi pour leur film La Fracture, une comédie sardonique sur une société en crise qui sort mercredi en salle.
Europe 1.
La COP 26, la conférence sur le climat, qualifiée cette année de plus importante depuis l'accord de Paris, se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre. 191 pays seront présents et comme à chaque fois depuis la conférence de Copenhague en 2009, qualifiée à l'époque de rendez-vous le plus important que se soit jamais donné l'humanité, on va dire de la COP 26 qu'elle est décisive. Il y a toutes les chances que l'on dise ensuite qu'elle a été décevante. Sandrine Maty, bonjour, vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche au CNRS. Qu'est-ce que vous attendez de la COP26, vous ?
Eh bien, bonjour. Eh bien, écoutez, effectivement, pour bien comprendre les enjeux de la COP26, il faut effectivement revenir 5 ans en arrière, en fait, plutôt 6 ans en arrière, à ce qui s'est passé à la conférence de Paris et qui a conclu à l'accord de Paris, qui fixait comme objectif de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et le plus proche possible de 1,5 degré, sachant qu'on est déjà aujourd'hui au niveau mondial à un réchauffement de 1,1 degré, donc vous voyez que les marges de manœuvre sont très très faibles. Et le véritable succès de l'accord de Paris, c'était d'avoir tous les pays, toute la communauté internationale qui a reconnu cet accord et qui a fourni, chaque pays fournissait ce qu'on appelle des contributions nationales. Et ces contributions nationales fixaient des objectifs à l'horizon 2030, des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que quand on fait la somme de l'ensemble de ces contributions nationales, eh bien, on n'est pas dans un objectif qui permettrait de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Et donc, tout l'enjeu, justement, de la COP26, c'est de permettre aux pays de proposer des révisions à la hausse de leurs contributions nationales pour permettre de se rapprocher le plus possible de l'objectif de l'accord de Paris.
Alors, d'après le rapport de l'ONU qui a été publié le mois dernier, on s'acheminerait non pas vers 1,5 degré d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle, non pas 2 degrés non plus, comme on l'espérait. On va plutôt vers une augmentation moyenne des températures de 2,7 degrés, ce qui est considéré comme catastrophique. Comment l'expliquez-vous ? Qu'est-ce que ne font pas les États qu'ils devraient faire ?
Alors, effectivement, déjà, si on compare déjà les objectifs des contributions nationales par rapport à ce qui est fait aujourd'hui dans les pays, eh bien déjà, dans ce qui est fait dans les pays, n'est pas assez ambitieux par rapport à ce qui est annoncé dans les contributions nationales qui datent de 2015. Et donc si on regarde effectivement ce qu'il faudrait faire, eh bien il y a des choses finalement assez assez radicales mais assez simples dans l'énoncé, c'est qu'il faudrait juste arrêter de brûler des énergies fossiles. On a aujourd'hui, si on regarde ce qui a été fait depuis le début de la pandémie, par exemple, les États du G20 ont apporté un soutien de près de 300 milliards de dollars aux activités de production d'énergie fossile, ce qui représente un montant bien supérieur au financement des énergies propres. Et puis, les gouvernements prévoient de produire en 2030 deux fois plus de combustibles fossiles que ce qu'il faudrait pour limiter le réchauffement à 1,5. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important, c'est que on est sur des trajectoires en termes de combustion des énergies fossiles qui est beaucoup trop important. En Chine, par exemple, en 2020, 40 gigawatts de centrales de production à base de charbon ont été produites, c'est-à-dire les deux tiers du parc de production nucléaire en France, par exemple, c'est l'équivalent, quoi. Donc on voit bien que les pays ont des contributions nationales qu'ils n'arrivent pas à atteindre. En même temps, parallèlement, un aspect positif, c'est que depuis l'accord de Paris, il y a plus d'une centaine de pays qui ont annoncé des objectifs de long terme qui sont très ambitieux puisqu'ils s'engagent sur la voie de la neutralité carbone, donc de ne plus émettre de gaz à effet de serre à l'horizon de 2050 ou 2060. l'Europe, les États-Unis, la Chine, mais en même temps, la Chine, par exemple, n'a pas soumis encore de contribution nationale pour l'horizon 2030. Donc, il y a vraiment une déconnexion, en fait, entre les objectifs de long terme, qui sont très ambitieux, et les objectifs de court terme, qui ne sont pas très ambitieux, qui, en plus, ne sont pas atteints. Et donc, ce qu'il faudrait vraiment arriver à mettre en place, c'est qu'à partir du moment où on a un objectif de long terme qui est très ambitieux, bah, pouvoir le décliner sur du moyen terme, dans des objectifs sectoriels, de savoir bah, voilà, comment on va sortir effectivement du charbon en Chine à l'horizon de 10 ou 15 ans ou 20 ans, puisque une centrale construite en Chine en 2020, elle a une durée de vie de 40 ans, ce qui fait qu'en 2060, date à laquelle la Chine s'engage à la neutralité carbone, cette centrale charbon sera encore là. Donc il y a vraiment une déconnexion entre les enjeux de court terme et les objectifs de long terme. Donc là, c'est vraiment voilà, c'est là-dessus que les pays devraient vraiment travailler pour rendre cette cohérence et que leurs objectifs soient crédibles.
En fait, la cause principale des émissions de CO2 qui provoquent le réchauffement climatique et qui ont triplé depuis 1970, c'est l'énergie que l'on consomme pour s'éclairer, pour se chauffer, pour faire fonctionner Internet, pour se déplacer, pour fabriquer des choses. Il n'y a que deux moyens de résoudre le problème au niveau global. Soit on utilise des énergies propres, soit on réduit notre consommation d'énergie.
Bah écoutez, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il faut effectivement, les choses sont très très claires. Les émissions de gaz à effet de serre viennent notamment du secteur énergétique, mais pas que. Il y a aussi l'agriculture, il y a aussi les forêts, la déforestation, l'usage des terres, etc., qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Dans ces secteurs-là, c'est beaucoup plus difficile de décarboner, puisque une vache, quoi qu'il en soit, de toute manière, elle émettra toujours du méthane. Par contre, dans le secteur énergétique, les technologies existent, les technologies bas carbone, que ce soit des énergies renouvelables, les technologies d'efficacité énergétique, c'est quoi ? C'est faire des grands plans de rénovation thermique de l'habitat, qui permettent d'économiser l'énergie qu'on consomme et donc qui se traduisent sur la facture des consommateurs et qui permettent également de créer de l'emploi. Il faut à la fois décarboner et promouvoir des modes de consommation effectivement qui soient plus efficaces, parce qu'il y a énormément de pertes d'énergie. Typiquement dans le système énergétique en Chine, il y a énormément de pertes. Avoir des comportements qui soient plus sobres en énergie, arrêter d'acheter des iPhones tous les ans, notamment, avoir une obsolescence des équipements qu'on achète qui soit moins rapide, et puis avoir aussi des infrastructures typiquement de mobilité qui nous permettent de sortir du véhicule thermique très rapidement.
On fait une pause, Sandrine Maty, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Tadéhi sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Sandrine Maty, qui est économiste de l'environnement, directrice de recherche au CNRS. On nous le répète souvent, le problème, c'est le coût de la transition énergétique. Il faudrait investir au niveau mondial 4 000 milliards par an d'ici 2030, soit 2 à 3 points de PIB supplémentaires. Vous l'avez dit, il faudrait par exemple complètement arrêter le charbon, sinon on n'y arrivera pas. Mais les centrales à charbon qui représentent 20% des émissions de CO2 de toute la planète. La plupart sont en Asie. Il leur reste, vous l'avez dit, des décennies de fonctionnement, alors que les arrêter coûterait très cher. Est-ce que la seule solution, ça ne va pas être que l'Occident paye la Chine pour arrêter ses centrales à charbon ?
Bonne question. En Chine, il y a une capacité de production d'énergie renouvelable qui est extrêmement importante. Donc, je pense que je pense pas que la Chine ait besoin de l'Occident pour arrêter ses centrales à charbon. Par contre, l'Europe peut également faire des choses, c'est-à-dire d'inciter effectivement les pays qui ne sont pas assez ambitieux, en mettant ce qui est en discussion en ce moment au niveau européen, une taxe d'ajustement aux frontières, donc qui permettrait en fait de faire payer les importations chinoises qu'on importe en Chine à hauteur de leur contenu carbone. ce qui permettrait de répondre à des enjeux de compétitivité, notamment au niveau européen, et puis qui serait un mécanisme incitatif également pour des pays qui ne sont pas assez ambitieux et qui utilisent encore du charbon massivement, donc à sortir de ces énergies-là. Après, pour revenir sur la question du coût, 4 000 milliards de dollars par an d'ici 2030, ça peut faire peur. En même temps, l'investissement, c'est de l'activité économique. Hein. C'est aussi ce qui crée de la croissance. Donc, faut pas être apeuré par ces chiffres. Ce qu'il faut faire, c'est réorienter massivement donc les investissements vers des investissements bas carbone. Et puis, ce qui permettra également de diminuer les coûts, c'est, par exemple, j'en reviens aux énergies fossiles, mais de supprimer les subventions aux énergies fossiles. Aujourd'hui, non seulement les énergies fossiles sont massivement subventionnées par les États, par les pays producteurs, les pays exportateurs, les pays consommateurs, et puis en plus, ces énergies fossiles ne payent pas l'impact qu'elles ont sur la société à travers, par exemple, les impacts sanitaires de la pollution, etc., etc., qui sont estimés à plus de 4 000 milliards de dollars par an également dans les pays de l'OCDE, la Chine et l'Inde. Donc, il y a tout ça qu'il faudrait également mettre en place. Et puis, il ne faut pas oublier que la transition énergétique, si on la met en place, c'est parce que ça va entraîner des bénéfices climatiques. Et que si on ne fait rien, par contre, le coût de l'inaction, là, pour le coup, ce ne sera pas 4 000 milliards de dollars par an d'ici 2030, mais à long terme, ça sera beaucoup, beaucoup plus, avec des économies qui seront complètement déstabilisées. Et en plus, la transition énergétique va générer des co-bénéfices dans plein de pans de la société, sur la pollution, j'en parlais, sur éventuellement des changements de mobilité qui vont faire qu'on aura peut-être des modes de vie un peu moins sédentaires, qu'on fera plus de marche, plus de vélo, et que ça a des impacts bénéfices extrêmement importants qui sont vraiment insoupçonnés. Ça va avoir aussi des co-bénéfices sur la biodiversité, parce qu'on va moins détruire des forêts, des écosystèmes pour faire de l'agriculture, pour donner à manger à des animaux, etc., puisqu'il va falloir également diminuer la consommation de viande. Donc il y a tous ces co-bénéfices, et au final, la transition énergétique, c'est pas du tout un coût pour la société. Au contraire, c'est vraiment une meilleure qualité de vie, c'est une moindre dépendance aux importations d'énergie fossile, c'est une moindre dépendance, par exemple, à la flambée des prix de l'énergie à laquelle on assiste en ce moment. Donc il faut vraiment pas percevoir cette transition énergétique comme un coût.
Les émissions de CO2 ont triplé depuis 1970, mais dans le même temps, la population a doublé et de nombreux pays, dont la Chine et l'Inde, sont sortis de l'extrême pauvreté. Or, ce sont les pays occidentaux qui sont responsables des émissions de CO2 dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Alors, comment résoudre le problème de façon juste et équitable, sans creuser encore les inégalités et risquer de provoquer une révolution mondiale ?
Alors, effectivement, cette question des inégalités est très, très forte. La question de la justice et de l'équité entre, voilà, comment se répartir les réductions d'émissions entre pays a été vraiment très largement discutée depuis les premières négociations internationales. Ce qui est sûr, c'est que l'Occident a une responsabilité historique indéniable. Aujourd'hui, néanmoins, vu les émissions de la Chine, cette responsabilité historique commence à s'équilibrer entre pays industrialisés et Chine. Néanmoins, ce qui est important de faire, c'est que les pays industrialisés fournissent une aide donc vers les pays en développement, pour les aider à la fois donc à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à financer l'adaptation aux impacts du changement climatique, puisque un certain nombre des pays les plus vulnérables au changement climatique sont des pays en développement et des pays parmi les moins avancés. Donc là, il y a un enjeu extrêmement fort. L'accord de Paris stipule que les pays développés doivent fournir une aide annuelle de 100 milliards de dollars par an aux pays en développement. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. L'OCDE estime qu'on est aujourd'hui à hauteur de 80 milliards de dollars. Donc il y a un gap qu'on espère pouvoir combler à la COP26. Il y a des attentes à ce niveau-là. Et puis, il faut également construire des partenariats avec d'autres pays. Et puis que l'innovation technologique, la diffusion de technologies bas carbone profite à tous. Donc là, il y a aussi des enjeux sur les brevets, sur l'accès aux technologies, etc., etc.
Merci Sandrine Maty d'avoir été mon invitée en direct ce matin sur Europe 1. La COP26, c'est à la fin de la semaine prochaine. On se retrouve juste après une pause avec un écrivain, c'est Patrick Besson.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Patrick Besson.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, excellent critique, un génie du cours, premier roman publié à 17 ans, une centaine de livres plus tard, vous inaugurez une nouvelle collection chez Privat, Les Petits Éloges Amoureux, avec un petit éloge amoureux de la librairie. Vous aimez vraiment les librairies ou vous vous êtes dit, tiens, voilà un livre que les libraires vont forcément mettre en évidence tout près de la caisse et dont ils diront forcément du bien.
C'est pas mon idée, hein. On m'a proposé ça. Bon, j'ai revu toutes les fois où j'étais rentré dans les librairies. Hein. Je dis souvent que j'ai acheté plus de livres que j'en ai vendu. Et donc, du coup, ouais, j'ai dit oui. Comme disait Chardon, je suis une honnête femme qui dit toujours oui.
Mais vous aimez vraiment les librairies
pour Ah oui, enfin, je veux dire, mon père, à chaque fois qu'on se promenait dans Paris, il regardait tous les menus du restaurant. Ça excédait ma mère, d'ailleurs. Mais moi, j'ai la même chose avec les librairies. Si je suis dans une rue, il y a une librairie, il faut que je rentre. Quel que soit le pays, même des pays dont je ne parle pas la langue. Je suis rentré dans des librairies thaï, des librairies congolaises. Quoi. Il y avait des livres français dans les librairies congolaises. Donc la librairie, c'est oui, je ne peux pas m'empêcher d'y entrer et le plus souvent d'acheter un livre.
Oui, j'allais vous dire, vous arrive d'en ressortir les mains vides ou...
Non, oui, enfin, peut-être plus que les gens qui ne reçoivent pas les livres par la poste, comme moi, mais... Mais
genre, oui, en tant que critique, vous recevez beaucoup de livres.
Oui, mais ce n'est pas toujours ceux que j'aimerais lire. Et ceux que j'aimerais lire, je ne les reçois pas, donc souvent, je vais les acheter.
Vous avez découvert la lecture à l'âge de 11 ans, racontez-vous dans ce livre. Avant, vous étiez trop occupé. Pourquoi est-ce qu'on se met à lire ?
Moi, c'est parce que j'ai changé de nom. En fait, je m'appelais du nom de ma mère croate jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, j'étais un petit garçon très bagarreur, sportif, un peu brutal. Et du coup, mon père a épousé ma mère. Hein, ce sont des choses qui se font. Et je me suis appelé Besson. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, par un mystère du nom, j'ai changé du tout au tout. C'est-à-dire que je me suis mis à lire, en gros, toute la bibliothèque de ma ville, qui est la même que celle d'Éric Zemmour, qui est Montreuil.
Et pourquoi ne s'arrête-t-on pas de lire ? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à lire et puis qui ont arrêté.
Ah, j'en connais pas beaucoup. Non, je connais des gens qui ont arrêté de boire, qui ont arrêté de faire l'amour, qui ont arrêté de se disputer... qui ont arrêté le sport, mais des gens qui arrêtent de lire, à part ceux qui sont devenus aveugles, j'en connais pas. Non, je crois qu'au contraire, que c'est une passion qui s'endurcit et s'approfondit avec le temps, et qu'à mesure qu'on connaît mieux la lecture, on est meilleur, plus précis dans le choix de ses livres, et donc on y prend davantage de plaisir.
Aujourd'hui, vous lisez encore des romans par plaisir, j'entends.
Oui, je suis au milieu de L'Idiot de Dostoïevski.
Oui, mais ça, c'est relire des chefs-d'œuvre. Je parle des romans, des romans qui sortent.
Oui, non, parce que comme j'ai assez peu de mémoire, donc du coup, je me souviens que c'est l'histoire d'un type qui faisait des crises d'épilepsie.
Oui, là, on est dans Dostoïevski.
Mais j'ai pas. Donc, le déroulement, les remarques sur l'existence, les drames entre les personnages, tout ça est quand même nouveau, même à la troisième ou à la quatrième lecture.
Mais vous comprenez bien ce que je veux dire, Patrick Besson, c'est quand on a 16-17 ans, quand on lit un roman, c'est quelque chose, on profite de l'expérience d'un type génial, en l'occurrence de Dostoïevski, par exemple. C'est une sorte de programme sur une vie future possible. Quand on en a plus de 60, on ne lit pas les romans de la même manière, si ?
Il me semble que les grands livres, on peut vraiment les lire plusieurs fois. Et d'abord, en effet, adolescent, grâce à eux, on imagine la vie. Mais quand on est un peu plus âgé, on la retrouve en quelque sorte. Donc on revit ce qu'on a vécu. Tandis que quand on est adolescent, on imagine ce qu'on va vivre. Donc c'est les deux côtés d'un livre, mais en même temps, le deuxième me paraît plus intéressant que le premier.
Vous rappelez que les livres, c'est ce qu'il y a de moins cher sur Terre.
Oui, il y a des livres à 20 centimes, mais il n'y a rien d'autre sur Terre qui coûte 20 centimes. Et 20 centimes, c'est ce qui reste de Bouligné sur le boulevard Saint-Michel. Et il y a encore, avant il y en avait beaucoup plus, mais il y a encore des livres à 20 centimes. L'autre jour, j'ai acheté un, je ne dirais pas le nom de l'auteur parce que ça va lui faire de la peine, mais j'ai acheté quelqu'un à 20 centimes.
Alors, ce petit éloge amoureux de la librairie, c'est une vie d'écrivain et de lecteur à travers ses souvenirs de librairie. Et vous nous racontez que vous n'avez donc rien lu avant 11 ans, mais que pour vos 12 ans, votre père vous a offert une machine à écrire Hermès Baby, la même qu'Ernest Hemingway, hein, si je me souviens bien, et sur laquelle vous écrivez votre premier roman, La famille Aitmatov. Vous avez fait vite, hein. En un an, vous passez...
Le premier livre que j'ai lu, c'était la biographie de Tolstoï par Troya, et le peu que j'en ai compris, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Oui, parce que j'étais quand même depuis ma toute petite enfance jusqu'à cette année-là, donc l'année de mes 10-11 ans, dans une angoisse totale, presque quotidienne. Je ne savais pas ce que je ferais sur Terre. C'est vraiment... J'étais sûr de rien. Je n'étais même pas sûr que mes parents étaient mes parents. Je ne savais pas si j'arriverais un jour à vivre ou à travailler ou à m'inscrire dans un paysage social quelconque. Et le jour où j'ouvre ce livre, je me dis, ben voilà. Et à partir de là, La famille Akhmatov, qui est en effet mon premier roman, que j'ai écrit à 11 ans, mais ce n'était pas encore à la machine à écrire. La machine à écrire est venue plus tard. Mon père s'est assuré d'abord que l'écriture était une vraie passion chez moi. Donc, il m'a acheté cette machine à écrire plus tard.
Alors, il faudrait que vous corrigiez votre livre. Dans votre livre, vous dites que c'est pour votre 12e anniversaire.
Oui, c'est ça. Mais le premier livre que j'ai lu, c'est 10-11 ans. Et mon premier roman, c'est 11 ans. Et la machine à écrire, c'est 12 ans.
D'accord. OK. Oui, donc on est... ça, c'est... vous avez fait vite, quoi. C'est bien ce que je dis. C'était bien la famille...
Non, à cet âge-là, c'est long.
Ça, c'était bien la famille Akhmatov.
Bah, c'était alors en gros une copie conforme des romans de Troya, donc ça devait être pas mal.
Henri Troya, un écrivain oublié aujourd'hui.
Plus ou moins, c'est était... bizarre parce qu'il a écrit 36 biographies et on n'en a pas écrit une seule sur lui.
À 17
souvent
ans,
le sard des biographes d'ailleurs.
À 17 ans, vous publiez votre premier roman, Les petits mots d'amour. Vous aviez déjà compris que ce sont les femmes qui lisent des romans et qu'il faut les attendrir.
Oui, depuis très longtemps, hein. c'est pas récent. Je veux dire, à toutes les époques, ce sont les femmes. Balzac, le succès de Balzac, c'est sa glorification, son succès public. Hein. Succès littéraire, c'est un peu autre chose. Mais c'est best-seller, hein, entre guillemets. C'est le 10 dans la vallée, c'est l'adoration de la femme. Et la sublimation de la femme.
Les petits mots d'amour écrits à 17 ans, les petits mots d'amour, c'est chercher à se faire consoler. Quoi.
Oui, je sortais d'un... je ne vais pas raconter ma vie, mais j'étais amoureux de la même fille de 11 à 18 ans et... Et un jour, on s'est embrassé, elle m'a quitté le lendemain. Alors, je peux vous dire que quand même, il y avait de quoi écrire un roman d'amour.
On fait une pause. J'ai encore d'autres questions indiscrètes, Patrick Besson.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Patrick Besson est mon invité ce matin. Il vient de publier un petit éloge amoureux de la librairie aux éditions Priva, dans lequel il nous raconte sa vie d'écrivain, sa vie de lecteur, sa vie de client de librairie. À 17 ans, donc, vous publiez votre premier roman, Les petits mots d'amour, et vous êtes invité dans l'émission de Daniel Gilbert à l'heure du déjeuner sur la première chaîne. C'était une institution à l'époque. C'est Daniel Gilbert, d'ailleurs, la première, longtemps avant Nulle part ailleurs, qui est allé faire son émission sur une plage pendant le festival de Cannes, elle était assez révolutionnaire. Et quel souvenir vous gardez de cette émission-là à 17 ans?
Un souvenir très précis, parce que j'étais donc l'auteur qui publie, le plus jeune qui publiait son livre, et on m'avait mis avec un monsieur qui publiait son premier livre, il avait entre 95 et 100 ans. Ouais. Donc ça marque quand même. Et alors c'était assez drôle comme idée de plateau du reste, mais je ne me souviens absolument pas de ce qu'il a dit, et encore moins de ce que moi j'ai dit.
Et Daniel Gilbert, parce que ça aussi on l'a oublié, mais après le 10 mai 81, il y a trois personnes qui ont été virées de la télé. C'est Daniel Gilbert, Guy Lux et Jean-Pierre Elkabbach. Et Jean-Pierre Elkabbach et Guy Lux, on les a réintégrés avec des excuses, mais Daniel Gilbert, on ne l'a plus jamais revu.
Mais oui, c'est une des grandes injustices du paysage médiatique français. Et il serait bon de la réparer.
Mais quel souvenir avez-vous gardé d'elle?
Ah ben une femme, comme celui que tout le monde a gardé d'elle, une femme absolument charmante, gentille, et qui m'a... Bon, peut-être je devais être un petit peu anxieux, c'était ma première télévision, je crois. Mais elle a trouvé les mots pour me conseiller.
Vous rappelez dans ce petit éloge amoureux que la révolution qui a été la FNAC, l'ouverture de la FNAC, un supermarché de la librairie, des kilomètres de rayonnage bourrés de livres.
Oui, parce qu'avant on pouvait rentrer dans les librairies, mais c'était des endroits un peu étroits, donc on pouvait rester à lire, mais il y a bien un moment où le libraire, il commençait à en avoir marre, il aurait aimé qu'on achète et qu'on s'en aille. Alors qu'à la FNAC, pas du tout, c'est-à-dire qu'on pouvait rester une heure, deux heures, trois heures, ce qu'ont fait d'ailleurs mes deux fils par la suite, enfin surtout l'aîné, ils restaient des heures aux bandes dessinées. Et donc, à l'époque, moi, je pouvais passer, en effet, une après-midi à la FNAC comme je l'aurais passé dans une bibliothèque. Et c'était très nouveau. Bah, ça coïncide avec le McDo, d'ailleurs. C'est les deux les deux victoires idéologiques de ma génération. Le FNAC et le McDo.
Adolescent, vous vous êtes fait prendre en volant des disques, jamais en volant des livres. Pourquoi? Parce que c'est plus petit, les livres?
Mais ma théorie, c'est qu'en effet, il y avait un gros livre de Marcel Arlan qui s'appelait Le Grand Pardon, qui datait de 3-4 ans. Et moi, j'étais coursier au-dessus de l'étage où il y avait les livres, c'était le Printemps Nation. Et je l'ai volé, mais ma théorie, c'est que le libraire m'a vu, mais qu'il ne m'a rien dit, parce qu'il était très content de s'en débarrasser, vu que ça faisait 3 ans qu'il était dans les rayonnages, qu'il comptait sur les bordereaux, il n'en pouvait plus du Grand Pardon. Et donc, il m'a laissé le voler, et je me revois encore mettre ce gros volume dans la poche de mon Duffelcoat, et puis... m'en aller, quoi, le plus discrètement possible.
Autre librairie gigantesque mais éphémère, l'espace livre de la fête de l'UMA à La Courneuve, où vous dédicacez pour la première fois un ouvrage en 1974, vous aviez 18 ans. C'était comment la fête de l'UMA du temps de Georges Marchais,
quand
le PCF faisait encore 25% des voix?
Ah oui, c'était une gigantesque fête, ça occupait toute La Courneuve, mais j'ai raté des ventes une fois de plus parce que on est arrivé en retard avec mes amis qui devaient me conduire là, et c'était déjà le discours de Georges Marchais. Alors je peux vous dire que pendant le discours de Georges Marchais, personne n'avait le droit de vendre des livres.
Mais vous y êtes souvent retourné de 1986 à 1992, vous le racontez, quand vous étiez compagnon de route, ou plutôt de déroute, comme vous dites, du PC, vous y êtes retourné souvent.
Oui, 5-6 fois, oui, là, c'était... Oui, j'avais l'impression d'être Jean d'Ormesson, c'est une impression agréable, mais un peu lassante sur la fin.
Jean d'Ormesson, mais de l'autre côté.
Voilà. Donc avec des gens, ouais, c'est vrai, hein. Tous les rapports sont faussés dans une dédicace. Ou bien personne vient et c'est une catastrophe, et la personne qui vient, elle est gênée pour vous. Ou bien il y a plein de monde et on peut parler avec personne. Donc je veux dire, le principe même de la dédicace dans une fête du livre, il est en quelque sorte biaisé. Le premier écrivain qui m'a fait une signature, c'est Vassili Vassilikos. C'était à la mairie de Montreuil.
L'auteur de Z.
Voilà. Et j'arrive le matin et j'achète son livre, mais il n'était pas là. Alors je dis, bon, je vais déjeuner. Et je reviens de déjeuner et je dis, et mon livre, il est signé. Oui, mais où il est, Vassilikos? Il est déjà parti. Et j'ouvre le livre et sur la page de garde, je lis à Patrick Besson avec toute mon amitié. On ne s'était pas vu. Donc j'ai compris ce jour-là qu'on pouvait avoir toute l'amitié d'un écrivain sans le voir. Il suffisait d'acheter un de ses livres.
À propos des livres qu'on vole, la musique est devenue plus ou moins gratuite. On peut en écouter partout, mais pas les livres. Vous le regrettez ?
Ah oui, beaucoup. D'ailleurs, j'avais écrit la version romancée de La Boum, d'après le scénario. Hein, c'est pas moi.
Oui,
la
novélisation, comme on
disait. Oui, on disait ça avant.
Comme La Boum et La Boum 2 avaient été d'énormes succès, on a demandé à un jeune écrivain d'en faire un roman.
Voilà, et alors on
vous
était...
Vous en avez vendu des tonnes.
300 000. Hein. Il y avait Sophie Marceau, Pierre Cossot, Daniel Thompson et moi sur la même rangée, moi qui étais donc l'auteur du livre. Mais évidemment, j'arrivais jamais à signer mon livre, parce qu'une fois que les enfants, c'était les ados, hein, ils avaient la signature de Sophie et de Pierre Cossot. Bon, Daniel, elle se débrouillait plus ou moins, il pensait que c'était quelqu'un
c'était
dans le cinéma.
C'était la scénariste.
Mais moi, il voyait pas du tout qui j'étais. Et alors, il pensait peut-être que j'étais le libraire. Et alors, il y a quelques personnes, et elles sont rares à mon avis, hein, qui ont le livre de La Boum, publié à l'époque chez Ramsès, c'était en 82, avec les quatre signatures. Mais c'est vraiment un collector, hein. Peut le vendre super cher. D'ailleurs, il y avait des petits qui n'étaient pas arrivés jusqu'à Sophie, ils étaient devant moi, ils me disaient « Monsieur, on peut en prendre un ?» J'ai dit « Mais oui, les livres, ça devrait être gratuit. »
Il n'y a plus que 3200 librairies en France, dont 935 en Ile-de-France, dont 100 dans le 5e arrondissement de Paris. Les librairies se sont raréfiées, et pas seulement dans les quartiers populaires. Hein. À Courchevel, il n'y a plus de librairies. Il n'y en avait plus non plus à Saint-Tropez, et puis il y en a une qui a rouvert l'année dernière. Comment vous l'expliquez ?
Bah, bon, évidemment, il y a la problématique Internet, mais moi, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui se rouvrent. Et puis, quand le cinéma est apparu, on a dit qu'il n'irait plus de livres. Quand il y a eu la télé, il n'irait plus de livres. Et puis, quand il y a eu Internet, qu'il n'irait plus de livres. Et il se trouve qu'ils lisent de plus en plus de livres. Alors bon, ils doivent bien les trouver quelque part.
Merci Patrick Besson d'être passé par Europe 1. Petit éloge amoureux de la librairie. Ça vient de paraître chez Priva.
Ben, merci à vous.
Je reçois maintenant Valeria Boni-Tedeschi et Catherine Corsini, juste après ça.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et Catherine Corsini et Valeria Bruni-Tedeschi m'ont rejoint dans le studio. Bonjour, je suis particulièrement heureux de vous recevoir toutes les deux. Catherine Corsini, vous êtes la réalisatrice de La Fracture qui sort mercredi en salle. Valeria Bruni-Tedeschi, vous tenez le rôle principal entouré de Marina Foïs et de Pio Marmaille. Alors j'ai pour l'habitude de ne pas dire si j'ai aimé un film ou un roman. Mes goûts personnels, je les garde pour moi, je ne les impose pas aux auditeurs. Mais là, je vais faire une exception, j'ai trouvé ce film formidable. Vous avez réussi à faire une comédie hilarante sur un monde plongé dans la détresse. Ça se passe aux urgences d'un hôpital public un soir de manif de gilets jaunes, mais sans jamais tourner vos personnages en dérision ni vous moquer de leur détresse. J'en suis resté pantois.
Merci. C'est sympathique de me dire ça.
Non mais c'est vrai, c'est pas facile.
Dès le matin, ça me met de très très bonne humeur.
Non mais je me suis dit que c'est un sujet dont vous auriez pu faire facilement un drame psychologique. De vous dire que vous alliez faire rire les gens, c'était pas gagné.
Non, il fallait être surtout dans la vitesse, il fallait confronter des antagonistes, il fallait créer, je pensais à la comédie italienne, donc voilà. Puis Valéria, elle amène quelque chose justement qui dépasse, j'allais dire, tout ce qui est psychologique, il fallait vraiment être dans une perché. Espèce de perché, mais que tout est explosif et tout est, j'allais dire, parfois absurde, parfois délirant, parfois aussi fort. J'allais dire émotionnellement, parce que cet hôpital, on a l'impression qu'il va être étouffé, qu'il est pris quand même, qu'il y a là cette violence qui rentre à l'intérieur. Mais il y a des irruptions, effectivement, de choses drôles, de choses de cacophonie qui font que, voilà, on essaye de montrer que cette situation qui est terrible, on essaye quand même d'y trouver un certain plaisir, une certaine satisfaction de façon à faire rire pour pouvoir faire passer des messages un petit peu politique.
Alors c'est très bien mis en scène, très bien écrit, c'est pas un téléfilm, c'est du vrai cinéma, c'est génialement interprété. Valéria Bruni-Tedeschi, j'ai l'impression que votre nature comique explose enfin dans ce film.
Oui, enfin, déjà je voulais dire que je n'ai pas le rôle principal, qu'on est vraiment un couple avec Marina Foïs et que tout ce que fait l'une, c'est grâce à l'autre. Même si l'autre n'est pas dans la scène, on est vraiment comme deux clowns, le clown blanc et le clown. Enfin voilà, et que donc moi j'essaye pas de faire rire, mais j'ai essayé juste de me mettre dans une situation de désespoir amoureux. Et le désespoir amoureux, il est parfois drôle à voir.
Ça se passe donc aux urgences d'un hôpital public en grève, un soir de manif des Gilets jaunes. Je crois que ça vous est vraiment arrivé, Catherine Corsini.
J'ai vécu exactement la même situation. J'avais encore un peu moins ma tête que Valéria, quand même, parce que j'étais bien dans les. J'ai vraiment eu très très mal, mais je suis tombée, j'ai glissé, je me suis retrouvée effectivement dans. Après, j'ai inventé, tout est documenté, mais tout est fiction. Et puis, c'est un personnage que j'ai écrit qui est proche de moi, mais j'ai voulu aussi que les interprètes y amènent leur propre. Leur propre folie, leur propre...
On dirait même que c'est improvisé par moments, surtout Valéria Bruni-Tedeschi.
Absolument, il y a eu des moments... Le film est très écrit, mais sur cette base d'écriture, je pense que justement ça peut permettre par moments des digressions ou par moments des...
C'est ça, c'est que c'est très écrit, le scénario d'ailleurs est magnifique, mais à l'intérieur de cette écriture très précise, on se sentait le droit... quand c'était nécessaire d'improviser, de faire entrer l'air. Et moi, ça, c'est une chose qui me parle beaucoup, même quand je réalise mes propres films, de laisser l'imprévu arriver. L'imprévu des mots ou l'imprévu des accidents.
Valéria, dans le film, vous êtes en couple avec Marina Foïs, c'est en pleine séparation. Dans Les Amours d'Anaïs, dont on a parlé récemment dans cette émission, vous formiez un couple éphémère mais romantique avec Anaïs de Moustier. Avant cela, juste avant, même un an et demi avant, il y avait eu Seules les bêtes de Dominique Moll. J'ai l'impression que vous êtes en train de devenir un sex-symbole lesbien.
Bah, avec grand plaisir, moi... Voilà, moi j'en sais rien, moi je m'occupe pas de ça. Pour moi c'est juste un film d'amour, je m'occupe pas du tout de la dimension homosexuelle des histoires qu'on me propose, du tout. Pour moi c'est vraiment la situation amoureuse qui n'est pas du tout la même dans le film de Charline que dans le film de Catherine. Et d'ailleurs l'âge de mon amoureuse change, et ça c'est peut-être une différence, mais même pas. C'est vraiment la situation amoureuse. Est-ce qu'on est plutôt objet de désir ou plutôt désirante?
Oui, là, vous êtes plutôt désirante dans
ce
film-là.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Objet de désir. Catherine Corsini, c'est vous qui l'avez choisi. Donc, est-ce que c'est parce que, tout à coup, elle devenait crédible pour ce type de rôle?
Franchement, moi, j'ai écrit une histoire de couple. C'est deux femmes, mais il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est comme ça, quoi. Voilà, oui. Ça me raconte moi, mais j'ai pas, il y a pas de drame autour de l'homosexualité. Il y a un drame autour de quelqu'un qui est quitté et qui a envie de récupérer son amour, et c'est ça qui est drôle. Ouais. Mais je pense qu'on est passé à autre chose, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi.
Est-ce que vous pensez, j'ai l'impression que tous les acteurs masculins ne peuvent pas tenir un rôle d'homosexuel, ils sont pas forcément crédibles, alors que les femmes plus facilement. Vous êtes d'accord ou pas?
Dans tous les cas, enfin, Valéria, tu veux dire quelque chose? Mais je sais que c'était un peu leur terreur de se dire est-ce qu'on y croit, et on n'a pas eu le temps vraiment de travailler en amont parce qu'on était en période de Covid, les films s'enchaînaient, etc. Mais ça a été tout de suite une évidence, il n'y a même pas eu à discuter, donc je sais pas, ça s'est fait comme ça, quoi.
Pour moi, est-ce qu'on y croit, c'est dans tout couple au cinéma. C'est-à-dire que quand il faut trouver un couple au cinéma, on les regarde, est-ce qu'on y croit ou pas? Et on ne sait pas pourquoi on y croit ou on n'y croit pas. Que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme ou une femme. C'est vraiment une chose chimique du cinéma qui accepte deux personnes ou pas. Mais par contre, je trouve, comme dit Catherine, qu'on est vraiment passé à autre chose et que franchement, je ne vois pas du tout le sujet, quoi. Mmh. Le sujet, ni ce que vous dites, par exemple, est-ce que deux hommes peuvent... Mais évidemment que oui, évidemment que c'est pareil, évidemment.
Pio Marmaille, au dernier festival de Cannes où le film était en compétition, a fait un petit scandale par ses propos à l'encontre d'Emmanuel Macron. Après avoir vu le film, j'ai compris, en fait, il était encore dans son rôle, celui d'un gilet jaune blessé par un tir de LBD.
Oui, moi j'étais pas là au moment où ça s'est passé, j'étais déjà repartie.
Catherine, non, t'étais là.
Non.
On était tous là, mais bien sûr.
Mais j'étais pas là quand il y a eu la réaction.
Ah, quand
ensuite,
bien sûr, oui.
J'étais déjà repartie. J'ai su qu'il y avait une réaction.
Absolument.
Mais effectivement, ce qu'il avait dit, c'était à peu près ce qu'il dit dans le film.
Dans le film, il dit j'ai envie de lui parler, mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il emploie la même figure, j'allais dire imagée.
Oui, ça me semblait normal.
Je vais passer par les égouts, etc. Et oui, au lieu de dire je voulais lui parler, il a dit j'irai lui casser la gueule. C'est quand même faut arrêter de délirer. C'est quand même un petit pas de côté, mais c'est pas non plus un scandale d'État, quoi. Il n'y a pas tout d'un coup. Il n'a pas allé me demander la tête d'Emmanuel Macron. C'est un peu le délire des réseaux sociaux et des politiques qui tout d'un coup surréagissent. On a l'impression qu'on est passé je ne sais pas où.
Il y a beaucoup de films français dans les hôpitaux ces derniers temps. Jadis, on faisait des films de docteurs. C'était Pierre Fresnay en général dans le rôle du docteur. Plus récemment, on a fait des films de malades. Là, on ne voit plus les médecins du tout, seulement les malades et les infirmières. C'est volontaire, j'imagine.
Oui, c'était... Alors, dans les films d'hôpitaux, souvent, on voit des choses vraiment extraordinaires. On court, on sauve des vies, etc. Là, c'est de la médecine quotidienne. Hein. C'est vraiment, on arrive aux urgences. C'est vrai que c'était aussi, les médecins, ils sont surdébordés. Ils ont plein de gens qui les attendent pour des opérations, etc. Vu que c'est une journée, enfin une nuit exceptionnelle. Donc, il n'y a que les infirmières et les infirmiers qui sont là et qui essayent de colmater un petit peu les brèches.
Ils peuvent être des drames quand même terribles. Hein. Il y a vraiment du suspense dans ce film.
Il y a du suspense parce qu'ils ont à s'occuper tout d'un coup de quelqu'un qui a un arrêt cardiaque. Donc, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort et j'allais dire aux urgences, j'ai eu comme j'ai travaillé avec beaucoup de soignants, ils m'ont raconté leurs expériences, des nuits où effectivement il y a des gens qui décèdent parce qu'il n'y a pas assez de personnel, etc., qu'on n'a pas eu le temps de prendre en charge quelqu'un, donc ça c'est une réalité, oui.
Dernière question, vous avez reconstitué des manifs de gilets jaunes, vous n'avez pas eu de problème? D'abord, vous avez tourné pendant la crise sanitaire, les manifestations étaient interdites, et d'autre part, c'était seulement 2 ans après les vrais manifs des gilets jaunes.
Mais si, j'ai eu un problème, c'est qu'on m'a interdit de tourner cette manifestation. J'avais l'autorisation de la ville de Paris, de la mairie du 8e arrondissement, mais la préfecture de police, au dernier moment, nous a mis le veto, tout en nous disant que ce n'était pas à cause de la crise sanitaire, mais ils étaient débordés. Je pense qu'ils avaient peur que notre manifestation, qui était quand même une manifestation de cinéma pas très riche, donc on avait 70 figurants, mais entraîne, une manifestation monstrueuse, le fantasme absolu. Donc on a attendu 3 mois et on a eu des refus partout. On a été obligé de tourner quand même, imaginez-vous bien, dans la cour d'un château à Fontainebleau, ce qui est assez...
Merci toutes les deux d'être passées par Europe 1. La fracture, ça sort mercredi en salle. Je vous souhaite très très bonne chance.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
C'est arrivé, demain s'achève. On se retrouve samedi prochain dans quelques instants. Après les infos, ce sera grand rendez-vous. Europe 1 CNews, Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, pardon. Qui est votre invité?
Bonjour Frédéric, notre invité pour le grand rendez-vous sera Alain Finkielkraut et je serai entouré de Nicolas Barré et Mathieu Boccoté pour l'interroger.
Merci Sonia, bonne émission.
Europe 1.